l'entretien aujourd'hui part du fait que deux livres sont parus sur des sujets voisins. Hein, le livre de Pierre Vinclair, Prise de verre, à quoi sert la poésie ? Et le livre de Guillaume Arthus-Bouvet, Inventio, Poésie, Autorité. La même année, à quelques mois de distance, l'un de l'autre. Donc la première question que je souhaitais poser à Guillaume Arthus-Bouvet, c'était quid de cette rencontre, de ce moment, de cette rencontre de problématiques et d'une question commune, son origine, c'est l'origine d'un questionnement qui renouvelle. On pourrait dire d'une certaine mesure la perception, le statut du poème.
Oui, alors en fait, c'est plutôt une coïncidence heureuse, puisque j'avais écrit à Pierre Vinclair pour lui proposer un poème pour sa revue électronique et puis papier qui s'appelle Catastrophe. Et de ce premier échange est née une conversation plutôt épistolaire, hein, qui nous a conduit à parler de poésie difficile, de poésie hermétique. Et moi, j'étais en plein travail donc sur Inventio, et j'ignorais qu'il avait écrit ce livre, qui n'était pas encore un livre. Prise de verre, hein, son propre livre. Et il s'est trouvé que j'ai eu l'opportunité de diriger une collection à la Rumeur Libre et que je lui ai demandé un texte au bout d'un moment. Et le texte qu'il m'a donné, c'est Prise de verre. Sans concertation, hein, et sans finalement, je crois que les livres aient été tellement déterminés par notre échange de notre discussion. Donc je crois qu'on était préoccupés de la même chose sans le savoir, et on s'est retrouvés proches de ce fait, quoi.
Alors c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, une même question différemment formulée se pose au sujet de la poésie contemporaine, qui va être celle de l'autorité pour vous, qui va être celle, du statut de la lisibilité, de ce que l'on fait de la lisibilité de la poésie contemporaine. Quel est le lien pourquoi commencer par poser la question de l'autorité de la poésie à une époque où la crise de vers est une crise d'autorité, au sens où la poésie n'a plus le premier rang parmi les arts, au sens où elle est devenue minoritaire et considérée comme en crise ou...
Alors, disons que la crise de vers n'est pas d'emblée, quand elle est formulée par Mallarmé, une crise d'autorité sociale et matérielle. C'est d'abord peut-être une crise formelle qui va avoir des conséquences à long terme. Il me semble que nous en sommes à un point où les dernières conséquences de cette crise se font sentir, hein, avec cette possibilité au fond de proposer une très très grande diversité de constructions formelles au titre d'un poème, hein, d'une tentative poétique. Si bien que dans cette aggravation de l'inventivité, d'une certaine manière, les cadres traditionnels de la réception et de la légitimité sont perdus. Hein. Donc on en arrive à ne plus très bien savoir, et c'est pas tout à fait nouveau, mais ce qu'est un poème, ce qu'il doit être, ce qu'il doit dire. Et évidemment, il y a un lien très clair entre cette crise d'autorité et cette crise de lisibilité, hein, que souligne plutôt, quant à lui, Pierre Vinclair. Le point, évidemment, c'est que une autorité, tant qu'elle existe comme référence à un poème, peut donner un horizon de lisibilité. Hein, si, par exemple, on sait de quoi ça parle, au nom de quel monde, de quelle valeur, de quel dieu le poème s'écrit, se prononce, on le reçoit comme un événement lisible. Quand on ne sait plus du tout de quelle autorité il dépend, ou quand la poésie prétend d'une certaine façon être elle-même sa propre autorité, on peut se demander comment la lire, quoi en faire. Et c'est la question de Pierre. Pierre qui répond à la question d'ailleurs d'une façon assez stimulante, hein, puisqu'il considère que la fin de la lisibilité n'est pas une catastrophe, pour reprendre le nom de sa revue, mais une chance, hein, que la fin de la lisibilité, c'est l'occasion d'inventer des usages du poème qui, en quelque sorte, ne relèverait plus seulement de l'herméneutique et qui tiendrait compte de la suspension, disons, de son rapport à l'autorité. Voilà. Sur ce point bien précis, hein, effectivement, je pense interroger Pierre pour savoir quels sont ses usages exactement. Hein, c'est-à-dire quoi faire du poème dès lors que il se soustrait aux formes traditionnelles de la lecture.
Oui, oui. Mais alors, paradoxalement, ce à quoi on assiste aussi beaucoup, c'est à la vitalité du travail poétique. Alors, cette libération quant à la lisibilité permet aussi, paradoxalement, à beaucoup de formes de poésie, de formes d'intervention poétique d'exister. Donc là, on est très loin d'une catastrophe. Il me semble en fait qu'aujourd'hui, quand même, le travail du poème concerne, non, je ne dirais pas beaucoup de monde, mais précisément du fait de ce flou qui lui est arrivé, ou dont il est marqué, engage beaucoup de tentatives. Et je pense que ces deux livres sont aussi permis par cette richesse de tentatives de jeunes poètes ou de poètes contemporains, et le fait que ça soit lié à l'existence de revues, à des échanges qui commencent dans les revues, montre aussi cette vraie vitalité de la poésie.
Oui, alors en termes de matériel ou de corpus, moi, j'ai plutôt travaillé sur un corpus, traditionnel et académique, hein, qui est celui vraiment de la poésie de la fin du 19e siècle et du 20e siècle, avec quelques textes contemporains. Pierre a abordé de manière plus frontale le moment présent, hein, qu'il connaît très bien, dans lequel il s'inscrit lui-même. Et en effet, une des questions qui reste pour moi quand même un petit peu pendante, c'est la question de la sélection, hein, d'une certaine façon, de l'évaluation. Qu'est-ce qui fait qu'un poème a une force, hein, qui ne soit pas peut-être une force de référence ou de sens, qui ne suscite peut-être pas des lectures, mais qui suscite l'effet d'une reconnaissance du type voilà de la poésie. Mm-hmm. Et donc effectivement, la chance et le risque, c'est qu'il y ait une dispersion des tentatives qui ouvre la possibilité de l'énonciation, comme dit Mallarmé, à n'importe qui, d'une certaine façon, que la légitimité poétique ne dépend plus d'une forme et d'une référence déterminée, mais que dès lors, on ne puisse plus très bien savoir où commence et où s'arrête la poésie, hein, avec toutes les problématiques qu'on connaît aussi, en termes de ce que Glaise appelle, je crois, la sortie, hein, sortir de la poésie comme texte, sortir de l'horizon traditionnel de l'écriture et de la lecture. Bon, la question, c'est de savoir où on va dans cette sortie. Et puis, ce que je peux aussi ajouter, c'est qu'effectivement, pour Pierre Vinclair comme pour moi, la réflexion théorique, elle est sans doute inséparable d'une pratique qui relève, en tout cas, sans doute en ce qui me concerne aussi, de l'expérimentation. Hein, et on peut dire qu'il est sans doute devenu difficile de se risquer au poème sans s'interroger en même temps sur la légitimité de ce qu'on risque, puisque précisément la légitimité n'est plus donnée en poème. Hein, donc, bon, ça c'est aussi une disposition à la fois intéressante et peut-être, disons, à questionner, hein, de ces poèmes qui s'écrivent sans autorité apparemment, mais qui en réalité sont garantis par une autorité seconde, par un discours ou un métadiscours théorique qui vient soutenir la possibilité. Hein. Bon, ce qui pourrait être une forme d'imposture ou de supercherie, hein, c'est-à-dire produire un poème poétiquement faible, sans autorité propre, et en garantir l'autorité par une autre voie académique, universitaire ou bon, théorique. Donc ça, c'est une inquiétude, disons. Hein, voilà, c'est une inquiétude.
Oui, l'autorité dont, qu'évoque Invencio n'est pas une autorité de confirmation extérieure au geste d'écriture.
Non, c'est l'idée, l'hypothèse, au fond, qui ne se trouve pas véritablement formulée dans le livre, hein, pour être tout à fait honnête. Il me semble que ce livre décrit, rencontre d'une crise. Essaye d'en tirer les conséquences, c'est-à-dire d'imaginer la possibilité du poème qui soit à lui-même sa propre autorité, mais ne répond pas à cette hypothèse, ni sur le mode poétique, hein, puisque c'est pas un livre de poésie, ni sur le mode spéculatif. Hein. Et au fond, il me semble que c'est ce qui, je dirais à la fois ce qui manque au livre et ce que je voudrais faire maintenant, c'est-à-dire essayer de donner une idée de ce que c'est qu'une poésie qui soit elle-même sa propre autorité, comment la poésie dispose sa propre autorité de manière immanente. La réponse n'est pas dans Invencio, mais c'est... Voilà.
Ce qu'on trouve très fortement dans Invencio, c'est la distinction poésie-prose, le sens qu'elle a aujourd'hui. Et c'est aussi un concept sur lequel vous revenez assez souvent, qui est la question de l'exception. Alors, je vais juste lire un passage qui conclut la partie 1. La poésie moderne définit donc son objet propre ou réel comme cela même qui lui demeure extérieur. Elle se détermine dès lors comme une entreprise aporétique, vouée à endurer sa propre impossibilité et à en exhiber incessamment les symptômes, comme on le voit chez Denis Roche par exemple, qui tire ainsi toutes les conséquences de l'abjuration rimbaldienne. Mais au moment même où le poème se saisit comme séparé du réel des choses et des êtres, il se découvre irréductiblement immanent à la prose où il intervient selon des configurations formelles singulières. Le poème se distingue toutefois de cette prose générale par l'assomption méthodique de sa propre impuissance, sans cesse avivée en figure, là où les discours de l'usage ne cessent aveuglément de prétendre à la diction du monde. Si la poésie aura pu se rêver comme l'effort d'une pureté, il n'y a donc pas de poésie pure. Le poème n'est rien d'autre que la prose spéciale où s'éprouve formellement l'extériorité désirable du réel aux langues qui peut se dire exception. Est-ce que vous pourriez commenter ce moment où la poésie peut se dire, ou plus exactement, engage la question de l'exception.
Oui, alors à ce point du parcours dans l'essai, il s'agit en effet de réfléchir à la détermination de la poésie comme un symptôme, en quelque sorte, dans la prose générale. On pourrait dire aussi peut-être un événement dans la prose qui marque le point où la prose prend conscience de sa propre impuissance ou de la résistance d'un réel. Hein, donc il ne s'agit pas, dans cette perspective, de considérer que la poésie est un discours spécifiquement séparée de la prose, qui serait capable, la différence de la prose, de l'usage, de dire le réel dans son être. Il s'agit presque inversement de considérer le poème comme une prose consciente de ses propres limites, hein, et qui va, pour le dire comme ça, dramatiser sa difficulté à dire. Donc là où la prose est dans la tentative, on pourrait même dire peut-être de manière un peu polémique, la prose et la prose romanesque est dans la tentative de dire quelque chose, le poème serait le lieu de l'expérience de la difficulté de dire. Et en même temps, pour qu'on n'en reste pas à cette détermination purement négative, cette difficulté de dire, elle peut prendre forme, prendre figure, elle peut, à sa façon, dire quelque chose. Hein. Donc, c'est ce que j'appelle l'exception, c'est-à-dire le moment où, effectivement, le poème parvient, par un agencement formel spécifique, particulier, à rendre visible, et moi je dirais même jusqu'à dire lisible, l'exception du réel aux langues, hein, ce qui est une formule de, finalement, de Prigent, en réalité. La difficulté de savoir s'il est possible, hein, je reviens à mon inquiétude antérieure, d'évaluer la force particulière de chaque configuration faisant venir cette exception. Hein. C'est-à-dire comment savoir si tel dispositif poétique est à la hauteur de cette expérience de la résistance du réel. Il ne suffit pas évidemment de produire une figure, il ne suffit pas de parler pour ne rien dire ou d'exhiber incessamment la puissance de la parole. Hein, sans quoi on entre dans une disposition finalement peu intéressante.
Il s'agit de surprendre le désir aussi. Il y a dans la partie de la Sistis d'Invencio, il y a long développement sur la question du désir qui est surpris par le poème. Notamment au moment où vous vous occupez de la lecture de Hagenbeim. Et donc, qui pour le coup, parle des poésie des troubadours et donc de cette vieille histoire du trouver. Est-ce que finalement le poème n'est pas une machine à trouver la matière, sa matière qui est le désir? Je cite page 145. Le désir n'est donc pas la matière, mais l'acte même du poème, en quoi s'éprouve sa légitimité. Or précisément, aucune proposition poétique ne suffit à elle seule à justifier son propre avènement. Elle se produit toujours comme la conséquence d'une première proposition, fût-elle demeurée latente, et comme appel à une proposition subséquente. À la différence du modèle philosophique du cogito, dans lequel l'énoncé se déploie sur lui-même, se refermant dans le geste d'une réflexion où il fonde sa propre autorité, l'énonciation poétique se produit comme une flexion où chaque occurrence se sait incapable de recouvrir l'occurrence qui la précède en fondant une pure circularité. C'est ainsi que le roman fictif, projeté à la fin de la recherche, ne s'identifie qu'imparfaitement au roman réel écrit par Marcel Proust. Donc il aurait suggéré à l'intérieur de son roman quelque chose d'une poésie inachevée qui, d'une certaine mesure, définit la question du langage poétique.
Oui, c'est-à-dire l'affaire, disons, de la force d'une tentative. De dire quelque chose du réel, quand bien même on est conscient de la résistance. Alors en ce qui concerne Proust, pour le dire peut-être un peu trop rapidement, le réel s'appelle le temps, hein, et la tentative romanesque, c'est l'inclusion du temps dans le discours du roman, et l'expérience thématisée par le roman lui-même, c'est celle de l'inachèvement. Et ce qui est fascinant dans le cas de Proust, c'est que cet inachèvement factuel, historique, référentiel, puisque partir de La Prisonnière, je crois. Les volumes sont publiés à titre posthume. Cet inachèvement est, d'une certaine façon, préfiguré par le dispositif du roman. Donc c'est un roman qui tente une compréhension au sens strict du temps, dans la conscience de la difficulté de la tentative et dans l'hypothèse d'un échec, hypothèse à laquelle pourtant le geste ne s'arrête pas. Donc effectivement, il y a bien sans doute à aller chercher peut-être le critère d'évaluation de la réussite d'un poème ou d'un texte dans cette tension entre la force du désir de dire quelque chose et la lucidité de la difficulté du projet. Mais donc dans ce qu'on peut appeler son drame, Claire parle d'ailleurs aussi à plusieurs moments de son livre, le poème dramatise une lutte entre le désir de dire et la résistance du monde. Mais ce drame doit se lire d'une certaine façon. C'est-à-dire que il ne suffit pas de considérer que le drame fonde la possibilité du poème, il faut bien que le poème dise le drame qu'il est, d'une certaine manière. Alors est-ce que ça implique nécessairement une réflexivité, un métadiscours, c'est une autre question. Mais si le lecteur n'a pas accès à cette tension désirante, sans doute il ne se passe pas grand-chose pour lui.
Oui. Alors, Pierre Winkler a des développements sur cette question à sa manière aussi, notamment dans sa conclusion. Je vais lire un passage, on pourra revenir ultérieurement sur la manière dont il traite l'impossibilité. En l'occurrence, ce que cherchent à faire bien des poèmes contemporains et à faire peut se dire ainsi, en contestant son besoin de sens, en résistant à son désir de représentation, ils offrent à leur destinataire la langue comme corps sensible gondolé de vision, exprimant l'expérience nue en même temps qu'ils lui font éprouver, en lui résistant, sa propre puissance. Le poème met son lecteur dans la même impossibilité que celle qui définit la place du poète. Lui demandant de se rendre digne du corps, de la langue, il en fait un égal. La distinction de l'auteur actif et du lecteur passif, telle qu'on l'éprouve dans le roman, disparaît. S'il le comprend, le récepteur accepte de lutter pied à pied pour tirer du poème une intelligibilité qui lui restera refusée. En guise d'expérience, il aura eu un corps à corps avec le texte. Ce passé antérieur aura eu, et d'ailleurs problématique, c'est une expérience qui ne se conclut pas. Un corps à corps sans victoire ni défaite, c'est-à-dire plutôt une danse. Comme l'écrit Jacques Dupin, ton visage et le mien, depuis toujours face à face, cependant nous nous étreignons comme des enfants sans faim. Est-ce là le seul programme envisageable? Ne peut-on rien faire d'autre, avec la poésie, que de chercher à partager le corps sensible de la langue? L'illisibilité est-elle une fatalité? En lisant ça, j'ai aussi envie de dire que l'illisibilité est aussi une sacrée méthode et leçon poétique, puisqu'elle défait les rapports d'autorité à l'intérieur même du texte poétique, et elle défait les rapports d'autorité entre lecteur et écrivain, elle demande en fait au lecteur d'être un recompositeur et un critique, et donc elle défait beaucoup d'hiérarchies sur lesquelles notre mode de perception de l'intellect littéraire a été fondé traditionnellement. Il y a quand même une sacrée nouvelle proposition, en quelque sorte, une proposition de libération, alors même si c'est dans l'indécis, une libération dans la question, une libération dans la critique, du geste de la lecture.
Oui, alors effectivement, l'hypothèse de Pierre, c'est l'analogie des corps à corps, c'est-à-dire le poème est un corps à corps entre, on pourrait dire, le désir de dire et la résistance du monde, comme on vient un petit peu de l'expliquer. Et sa lecture est pour le lecteur lui-même un corps à corps, hein, entre son désir de sens et la résistance du corps linguistique du texte. Hein. Et dès lors, effectivement, il n'y a pas de différence de principe entre l'écriture et la lecture. Écrire, c'est faire l'expérience de la résistance de la langue, l'impuissance de la langue, la puissance relative de la langue, et lire, c'est refaire un peu autrement la même expérience. D'où en effet une nouvelle politique, hein, du poème, selon laquelle il n'y a plus d'un côté l'auteur qui, du point d'une maîtrise, aurait pu déployer un discours sachant ce qu'il dit sur le monde, et de l'autre lecteur, il y aurait des écrivains qui font des expériences, donnant lieu à des poèmes qui impliquent des expériences de lecture, qui elles-mêmes n'interdisent pas d'ailleurs une réaction poétique. Et donc, en effet, ce qui est destitué, hein, c'est l'hypothèse d'une maîtrise de la parole, hein, d'une certaine façon. Et bon, Pierre va jusqu'à en tirer la conclusion que la circularité sociologique selon laquelle les poètes sont les premiers lecteurs de poésie n'est pas du tout... un signe de l'affaiblissement du champ, hein, mais au contraire de cette recomposition, disons, horizontale par laquelle tout poète n'est qu'un lecteur et tout lecteur peut devenir poète, quoi. Et donc, voilà, il a une vision très, très optimiste de cette situation sociologique un peu nouvelle, peut-être.
Oui, c'est très frappant, une forme de démocratie poétique qui, d'ailleurs, il y a un de ces passages qui s'intitule « Le cercle des égaux », qui reprend ces questions-là. La question que je souhaitais poser à Pierre Vinclair est celle de, dans sa mise en place de la danse entre le lecteur et le poète, la question du corps, le corps sensible de la langue. Comment le poème se constitue-t-il comme corps ? J'aimerais beaucoup entendre son idée, le développement sur cette idée de la façon dont le poème doit faire corps. Ou faire apparaître ce qui reste d'un corps, quelles sont les distinctions qu'on peut établir pour comprendre cette idée du corps du poème.
Alors, comment est-ce que le poème fait corps, ou comment est-ce que le poème se constitue comme corps, ou essaie de se constituer comme corps, ou peut-être essaie de faire croire à son lecteur qu'il est un corps, ou qu'il faut le considérer comme tel, il me semble que ça doit être mis en lien avec la tentation du poème de s'arracher à la représentation qui serait le régime normal de communication dans lequel des signifiants porteraient ou renverraient vers des signifiés. Le corps, le poème comme corps, ça serait un état de la langue dans lequel la présence des signifiants serait comme déconnectée de celle des signifiés, ou un état de la langue dans lequel les corps seraient dans un état de pré-signification. Le fait de parler du corps dans un usage un petit peu métaphorique, c'est une manière de renvoyer à quelque chose qui n'est pas n'importe quoi, comme un visage par exemple, et organisé comme une totalité, mais une totalité qui n'est pas encore complètement signifiante, une totalité qui reste de la matière, une matière qui n'est pas un chaos, qui a une forme, mais qui pour autant ne peut pas être synthétisée dans autre chose, dans une idée, donc quelque chose qui reste, qui n'est pas idéalisable. La manière dont le poème le fait, à mon avis, dont il essaye d'être perçu comme tel par le lecteur, c'est ce qui relève de sa rhétorique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail du poème pour fuir aux perspectives d'interprétation, d'herméneutique du lecteur. Il y a un corps à corps entre le poète et le lecteur. Et l'enjeu de ce corps à corps, comme dans un corps à corps normal, comme dans un corps à corps qui engagerait des vrais corps, ça serait pour le poème de résister à la tentation qu'a le lecteur de le synthétiser ou de le transformer en idée, c'est-à-dire de gagner la partie, de gagner la partie de la signification. Et si c'est bien quelque chose qui est de l'ordre du corps à corps qui a lieu dans la lecture d'un poème, il me semble qu'on peut interpréter tout un ensemble de propriétés du poème comme des tentatives qu'il aurait, lui, le poème, de déjouer la volonté qu'aurait le lecteur de le synthétiser, de le transformer en idée ou simplement de le paraphraser. Donc il me semble que c'est les modalités par lesquelles le poème le fait sont diverses, elles peuvent être variées, elles varient sans doute historiquement ou d'un pays à l'autre, peut-être même d'un poème à l'autre, en tout cas d'un poète à l'autre assurément, puisque c'est ce qui va sans doute faire des différences de style entre un poète et l'autre, mais il me semble que, en tout cas, la difficulté qu'on a à lire le poème est liée à cette tentative qu'aurait le poème de se montrer comme corps inarraisonnable aux tentatives d'interprétation, de paraphrase, de transformation du texte en pure signification, comme on pourrait l'avoir, par exemple, dans un traité ou dans un roman dans lequel on peut paraphraser ou résumer l'histoire, c'est-à-dire transformer la matière textuelle en quelque chose qui serait de l'ordre de la pure... composition d'idées.
La seconde question, c'est que cette danse est en partie non pas conflictuelle mais oppositive. Il y a une dimension critique, une dimension conflictuelle, une dimension qu'on pourrait dire d'un polémos interne qui se met en place. Alors le polémos le plus négatif. Et celui qui constitue à rejeter la poésie comme étant incompréhensible, illisible. Mais il y a aussi une forme de polémos de la lisibilité ou du plus que lisible à l'intérieur de cette prétendue illisibilité de la poésie qui tient justement aux traces d'une lutte. Est-ce que le poème n'advient alors que par une forme de mise en place d'un échec, de son échec? Et comment penser cette notion d'échec que d'ailleurs... La nomination de la revue Catastrophe, dernière strophe du poème, semble suggérer.
Alors oui, je suis assez d'accord. L'idée que le poème serait la trace d'un échec, ça me semble une idée qui est importante et qui permet surtout de dénouer un problème auquel on est confronté souvent quand on réfléchit à la poésie difficile ou la poésie illisible, qui serait le problème de l'intransitivité. En fait, du fait même que le poème est illisible, du fait même que cette illisibilité peut être rapportée éventuellement au fait que la langue n'est plus qu'un corps, on aurait tendance à considérer, comme on le fait depuis Sartre, que le poème est destiné à être intransitif, qu'il n'est pas destiné à s'offrir à quelqu'un d'autre, à un lecteur, à une communication, qu'il n'est pas non plus... destiné à référer à la réalité sociale. Il me semble que si on entreprend de considérer que le poème est un échec, une sorte d'échec, ça permet de considérer aussi que il y a eu un projet, peut-être un grand projet, et que ce projet s'inscrit dans la sphère sociale comme tout un ensemble de projets. On arrive ainsi à sauver l'idée d'une illisibilité d'un côté et d'un autre côté le fait que cette illisibilité ne soit pas liée à une intransitivité. Alors si ça me semble important que cette illisibilité ne soit pas liée à une intransitivité, C'est parce que si le poème était en effet intransitif, s'il n'avait pas cherché à être autre chose que ce qu'il est finalement devenu, si le poète ne cherchait rien dans sa pratique qu'à faire le petit tas de traces illisibles qu'il nous offre finalement à lire, ça signifierait que la poésie finalement n'est que, en quelque sorte, de la littérature, c'est-à-dire un ensemble de productions destinées à être admirées en tant que telles pour des propriétés objectives, mais pas du tout à s'intégrer à l'ensemble des autres pratiques des hommes en société. Alors il me semble que l'intérêt justement d'une approche pragmatique, comme celle que j'essaie de développer dans Prise de Vers, c'est de montrer, ou en tout cas d'essayer de voir dans quelle mesure on pourrait dire que le poème, tel qu'il existe, est lui aussi le résultat d'un grand projet, d'un projet peut-être immense et voué à l'échec, et qui concerne le fait, en quelque sorte, de sauver le réel dans la langue, de faire de la langue, en tout cas, et du poème en tant qu'il est le corps de la langue, le lieu où se passent les actions qui sont destinées à porter dans le réel. Si on dit ça, on peut voir un exemple qui aura peut-être plus de lien avec l'intitulé de la revue Catastrophe. On peut mettre ça en lien avec, par exemple, la poésie qui s'intéresse à l'écologie. Si on pense que la poésie est intransitive et qu'elle n'est qu'un ensemble de petites traces dont les régularités formelles peuvent être regroupées sous le terme générique de littérature, on ne voit pas vraiment quel intérêt il y aurait à écrire de la poésie écologique. Si par contre on considère que le poème, c'est le lieu dans lequel on a accès au corps de la langue et que dans ce corps de la langue-là peuvent s'incarner tous les projets les plus fous, on peut imaginer par exemple qu'on puisse avoir le projet de sauver la Terre dans un livre de poèmes. Alors on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça voudrait dire, on ne sait pas exactement comment il faudrait s'y prendre, mais on voit bien que ce n'est pas du tout le même projet de sauver la Terre dans un livre de poèmes et de faire du poème une petite chose intransitive qui n'est destinée qu'à être rangée au rayon poésie dans les étagères désertées des librairies. Donc si on dit ça, si on dit que le poème c'est au contraire le lieu des plus grands projets, on peut effectivement considérer que le livre de poèmes dans son apparence finale a toutes les chances d'être la trace d'un échec, et en même temps comprendre que derrière cet échec se joue quelque chose qui était de l'ordre du plus haut, du plus important des saluts.
La figure de la question du corps, des luttes ou de la lutte, de la recomposition, la différence entre un processus dynamique et l'objet supposé réifié, mais qui ne l'est pas en fait du poème, m'invite à poser la question de la manière dont peut-être le poème suggérerait un certain rapport au monde. Alors il est beaucoup question d'éco-poésie actuellement, de considérer le poème comme une tentative de prendre en compte cette autorité qui se rappelle à nous de plus en plus violemment, et qui est l'autorité de la nature, ou de plus en plus, de manière de plus en plus ultime. Et il y a dans Inventio un certain nombre, un grand nombre de développement sur la question de la pastorale comme histoire d'un modèle poétique. Donc la question que je voudrais poser, c'est voilà, pourquoi la pastorale est-elle réapparaît-elle ainsi à l'intérieur du poème contemporain ou de la poésie contemporaine?
Ce qui m'intéresse beaucoup dans Inventio et que j'ai essayé de mener à ma modeste échelle dans Prise de Vers, c'est en fait exactement la même chose qui est une cartographie du territoire contemporain de la poésie, depuis Mallarmé en gros. Et cette cartographie, elle vaut moins, à mon avis, comme une validation, comme un blanc-seing, que plutôt comme essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la crise qui a eu lieu, mais aussi pour pouvoir en sortir. Et si la question écologique m'intéresse aussi et m'intéresse dans son rapport avec la poésie, c'est qu'il me semble que de par son urgence et de par aussi son caractère extérieur au champ de la littérature, alors que la crise de vers, celle qui a structuré la révolution moderne avec Mallarmé, c'est plutôt une crise qui est interne, il me semble que la crise écologique, nous sommes de nous ressaisir d'une certaine manière, et ça, de nous ressaisir tous en tant que citoyens, en tant qu'habitants sur Terre, mais donc aussi, a fortiori, en tant qu'écrivain et poète, et que ça n'est possible que parce que nous aurons bien compris les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là où nous en sommes, qui sont des raisons qui sont justifiées, en tout cas qui se justifient, qui se comprennent, et dont nous ne pourrons sortir, enfin crise dont nous ne pourrons sortir que si nous avons compris pourquoi nous y avons été jetés et les raisons pour lesquelles cette crise était nécessaire et peut-être indispensable. Et donc, ce que j'ai trouvé dans Inwensio de très intéressant, c'est justement qu'il ne s'agit pas de dire voilà, nous n'avons plus d'autorité, voilà, nous n'avons plus accès au réel, voilà, nous n'avons plus de sujet, etc. En tout cas, moi, la manière dont je l'ai compris, c'est la littérature contemporaine n'a été possible que parce qu'elle a reposé sur cette triple croyance métaphysique, ontologique, et que cette croyance, c'est peut-être celle, cette triple croyance, c'est peut-être celle qui est masquée aujourd'hui par le nouvel enjeu, l'apparition d'un nouveau sujet transcendantal, la Terre peut-être, Gaïa. Selon qu'on l'appelle avec les concepts de Bruno Latour ou pas. Et en tout cas, ce troisième sujet va, ce quatrième sujet plutôt, ce nouveau sujet va fort probablement nous sommer de recréer à nouveau une forme de poésie pour nous y confronter et pour être à la hauteur de ce qu'il nous demande. Donc pour moi, il s'agit vraiment dans ces deux essais de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir mieux affronter ce qui nous arrive et relancer la poésie.
Pastorale, hein, elle est formulée de façon très nette, hein, pour notre temps par Jean-Claude Pinson, hein, qui en fait vraiment sa question. Hein, elle est aussi reprise, intensifiée d'une certaine manière par un Michel Deguy, hein, qui écrit Des écologiques. Et en effet, elle insiste d'une façon tout à fait singulière. Alors peut-être que la question peut se posé de cette façon, doit-on considérer donc qu'au terme de ces déconstructions, au bout de la crise, il y aurait quelque chose comme un sol indéconstructible, hein, comme vous le disiez, une autorité incontestable qui viendrait faire injonction à la nature. Et bon, pour esquisser une réponse qui n'est qu'une une hypothèse, il me semble qu'il y a peut-être deux façons d'envisager cette nouvelle disposition, soit effectivement d'une manière un peu pauvrement thématique, on constitue la nature. Telle qu'elle a été pendant très longtemps déjà le lieu de la configuration poétique comme le sujet du poème, sujet d'actualité au sens thétique et thématique, hein, qui reviendrait sous les formes qui ont été les siennes. Bon, mais dans ce cas-là, on se risque peut-être à répéter. Hein, et au fond, à parler d'une nature, si j'ose dire, pré-écologique, hein, c'est-à-dire. Il ne me paraît pas évident que la pastorale, dans sa tradition, se soit constituée comme inquiétude face à l'urgence d'une destruction. Bon. Donc bien sûr, la nature est la nature, mais ce n'est pas la même nature. Et donc la deuxième manière de prendre en compte cette affaire cette nature, c'est évidemment de la saisir comme, peut-être même plus qu'une autorité pour la poésie, hein, qui viendrait légitimer sous la forme un peu d'un engagement éthique, poétique, l'écriture et les tentatives, sinon vouées effectivement à la, au ressassement d'un langage fermé sur lui-même, plus qu'une autorité venant légitimer donc l'exercice poétique, comme une injonction hein, qui violemment impose la poursuite de la rénovation formelle, inquiète telle qu'elle a déjà commencé. C'est-à-dire qu'au fond, indépendamment du thème, nature, hein, dans sa visibilité, dans sa lisibilité, ce qui me paraît important, c'est que la poésie s'écrive sous condition d'une inquiétude. Et là, il me semble que ça a déjà commencé, sous des formes diverses, hein, et qu'un Baudelaire, par exemple, en parle, sans... mise en scène pastorale, sans thèse écologique ou écologiste, etc. etc. Mais l'inquiétude de ce qui va rester du monde, hein, au fond, oui, c'est une question pressante, mais peut-être pas sous les formes, j'allais dire, de la pastorale traditionnelle ou du thème purement et simplement configuré par une parole qui viendrait comme ça se rassurer, en réalité, sur ça, sur sa légitimité. Je crois que l'opération écologique en poésie, elle ne peut pas rassurer, hein, ni la poésie, ni l'habitation poétique.